VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Média Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. République démocratique du Congo. L'opposant congolais Martin Fayulu, qui se proclame vainqueur de l'élection présidentielle en RDC, est en campagne pour exiger la vérité des urnes. Comparant sa situation avec celle du président autoproclamé Juan Guaido au Venezuela. M. Fayulu, qui conteste l'élection de son ex-confrère opposant Félix Tshisekedi, est arrivé lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, après deux précédentes étapes à Beni et Butembo dans l'est du pays, région en proie à la violence des groupes armés. La CENI, la Commission électorale nationale, puis la Cour constitutionnelle ont proclamé Félix Tshisekedi vainqueur avec 38,5% des voix et Martin Fayulu deuxième avec 34%. Ce dernier accuse le président de la CENI, Corneille Nangaa, d'avoir fabriqué les résultats et il dénonce un putsch électoral orchestré par l'ex-président Joseph Kabila. Et RDC toujours, les salariés de l'entreprise publique minière Gécamines ont dénoncé lundi auprès du président Félix Tshisekedi ce qu'ils appellent la gestion calamiteuse de l'ex-fleuron de l'industrie nationale par un proche de son prédécesseur Joseph Kabila. Irénée Herman Ungbo nous en dit plus.
Dans leur mémorandum au nouveau chef de l'État, les agents de la Gécamines accusent Albert Yuma, gérant de la Générale des Carrières et des Mines, de dilapider l'argent de l'entreprise dans la rémunération des membres du conseil d'administration. Les dirigeants sont nommés sans qu'on ne tienne compte de leurs compétences, dénoncent-ils, déplorant l'appartenance à un parti politique comme seul critère de compétence. Ils affirment que la production du cobalt propre à la Gécamines est tombée de plus de 100 à moins de 62 tonnes entre 2017 et 2018. Comme à peu près tous les salariés des entreprises publiques, ils exposent également des revendications sociales, notamment le licenciement massif. Ils disent compter sur l'esprit de changement qu'incarne le nouveau président congolais Félix Tshisekedi pour résoudre leurs problèmes. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, un minerai stratégique utilisé dans les batteries électriques. Elle a cédé ses gisements à des entreprises privées à capitaux étrangers.
Corruption en Afrique. En Zambie, le ministre des Infrastructures et du Logement, Ronald Chitotela, arrêté début février dans une affaire de corruption, a nié ce mardi devant un tribunal de la capitale Lusaka les accusations qui pèsent contre lui. Âgé de 47 ans, M. Chitotela est soupçonné avec trois complices présumés d'avoir caché qu'il détenait dans un quartier cossu de la capitale Lusaka deux propriétés suspectées d'être le fruit d'activités criminelles. Placé en liberté sous contrôle judiciaire, Ronald Chitotela s'est rendu aujourd'hui devant le tribunal accompagné de plusieurs centaines de ses partisans. Le juge a fixé au 20 mars le début de son procès. Le prévenu risque une peine maximale de 5 ans de prison. Au Mozambique, le fils de l'ex-président mozambicain Armando Guebuza reste en prison. Tribunal a ordonné lundi le maintien en détention de Ndambi Guebuza, arrêté samedi dernier dans une affaire de corruption. Plus de détails avec Yakuba Ouedraogo.
Un juge de Maputo a estimé que Ndambi Guebuza, homme d'affaires, devait rester derrière les barreaux jusqu'à son procès. Le fils de l'ancien chef de l'État figure parmi les 8 personnes arrêtées la semaine dernière. L'assistante personnelle de l'ancien chef de l'État et l'ex-patron des services de renseignement ont aussi été interpellés. La justice leur reproche d'avoir participé au détournement d'une partie de 2 milliards de dollars de prêts dissimulés au Parlement et aux bailleurs internationaux accordés à partir de 2012 à trois entreprises publiques pour l'achat de bateaux militaires et de pêche. Ces sommes, estimées à au moins 500 millions de dollars dans un audit, auraient servi à payer des pots de vin à des banquiers, des hommes d'affaires et des personnalités politiques. La justice américaine a aussi ouvert une enquête sur ce dossier. Sur sa requête, l'ex-ministre des Finances Manuel Chang a été arrêté fin décembre en Afrique du Sud et risque une extradition vers les États-Unis. Selon l'acte d'accusation américain, Ndambi Guebuza aurait reçu, pour sa part, 9,7 millions de dollars de pots de vin. Il a dénoncé une arrestation politique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Élection au Sénégal maintenant, suite de la série de notre correspondant Sedina Abagueil sur les attentes de la population à quelques jours de la présidentielle du 24 février. Sedina se penche aujourd'hui sur le secteur éducatif.
Le Sénégal est souvent cité en exemple à l'échelle continentale en termes de qualité de l'enseignement. Seulement, il y a des défis à relever dans le domaine de l'éducation. L'enseignement supérieur a traversé des zones de turbulence. En 2018, la mort d'un étudiant à l'université de Saint-Louis lors d'affrontements avec les gendarmes a provoqué un mouvement de protestation qui a paralysé le système éducatif sénégalais pendant plusieurs semaines. Aaron Thiam, étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, s'inquiète de son sort et espère que les conditions d'études seront améliorées par le futur chef de l'État.
L'étudiant, c'est quelqu'un qui a fait un cursus scolaire, ne serait-ce que s'il n'a pas doublé de classe de 13 années d'efforts. Et arrivé à l'université, je pense que sa seule préoccupation devrait être la réussite dans ses études. Et aujourd'hui, l'administration a mis en place aujourd'hui un système qui ne favorise pas l'amour des études. Aujourd'hui, les étudiants sont confrontés à de multiples problèmes. Ils ne sont pas assistés socialement. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ont des problèmes pour s'insérer au niveau du campus. Et au niveau des amphis, c'est la bousculade. C'est la bagarre.
D'après le ministère de l'Éducation nationale du Sénégal, le système éducatif est géré par 92 560 enseignants, dont 25 452 femmes. Mais Gore Nying, parent d'élèves, déplore que certains enseignants entrent dans le métier par défaut et le considèrent comme un moyen d'ascension sociale.
La crise que traverse le secteur de l'éducation sénégalaise est due en partie aux personnes qui se lancent dans les métiers sans en avoir les compétences. L'éducation est un secteur stratégique pour la croissance d'un pays. La tendance du moment, je suis au chômage, bon, je veux me lancer dans l'éducation. Ce n'est pas normal. Le futur président du Sénégal a l'obligation d'assainir ce secteur.
En 2018, l'enseignement supérieur public comptait 114 840 étudiants et l'enseignement supérieur privé 47 795. Cela fait une population estudiantine de 162 635 étudiants contre 151 989 en 2016 au Sénégal. Des chiffres avancés par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. D'où l'inquiétude d'Aaron Thiam qui dénonce le nombre pléthorique des étudiants dans les amphithéâtres.
Le nombre pléthorique des étudiants ne correspond pas avec les infrastructures et les équipements qui sont aujourd'hui au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais aussi, la qualité de l'enseignement qui devrait être véhiculée par les professeurs n'est pas au rendez-vous parce que les professeurs aujourd'hui, nous sentons qu'ils ont d'autres préoccupations qui sont autres.
Dans un contexte démographique où les moins de 20 ans représentent 55% de la population, le Sénégal doit se doter d'un système éducatif performant. C'est du moins l'avis des citoyens rencontrés. Le président élu au soir du 24 février 2019 va-t-il réussir ce pari? Wait and see. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Guinée-Bissau, le président bissau-guinéen José Mario Vache a nommé lundi un nouveau ministre de l'Intérieur alors que le pays vient d'entrer en campagne pour les élections législatives du 10 mars. Edmundo Mendes, 46 ans, ancien professeur de droit à l'université Amilcar Cabral, a été désigné à ce poste laissé vacant suite au limogeage en novembre de Montaro Diallo au lendemain de la répression d'une manifestation d'étudiants. Actualité hors d'Afrique, maintenant agitation au Venezuela. Le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde aux chefs militaires du pays en leur disant qu'ils allaient à leur perte s'ils refusaient de se rallier à l'opposant et président autoproclamé Juan Guaido. Le point avec Jean-Roger Bion.
Les yeux du monde entier sont braqués sur vous aujourd'hui, a averti M. Trump dans un discours prononcé à Miami devant la communauté vénézuélienne de Floride. Il a exhorté les officiers vénézuéliens qui restent loyaux au président Nicolas Maduro à laisser entrer l'aide humanitaire dans leur pays. Vous pouvez choisir d'accepter l'offre généreuse d'amnistie du président Guaido et vivre en paix auprès des vôtres. Sinon, vous pouvez choisir la seconde voie, continuer à soutenir Maduro. Dans ce cas, vous n'aurez aucun endroit où vous réfugier, pas de sortie possible. Vous perdrez tout, a averti le président américain. L'occupant de la Maison-Blanche, accompagné de son épouse Melania, et très applaudi par les exilés vénézuéliens, a qualifié le président socialiste Maduro que Washington ne veut plus voir au pouvoir de marionnette cubaine. Tout en disant préférer une transition pacifique, Donald Trump a répété que toutes les options étaient sur la table concernant ce pays secoué par une grave crise économique qui a provoqué l'exil de plus de 2,3 millions de ses habitants, selon l'ONU. Le Venezuela est entré lundi dans une semaine sous haute tension, Juan Guaido assurant que l'aide humanitaire américaine serait acheminée coûte que coûte samedi dans le pays, malgré le refus catégorique de M. Maduro. Le conflit autour de la distribution de l'aide est au centre de l'échiquier diplomatique. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et Cuba, soutien de Nicolas Maduro, condamnent l'ingérence des États-Unis et d'autres gouvernements.
Merci de votre attention. Quelle est